les sacrements, mais c'est en vain qu'il m'adore, enseignant comme doctrine des commandements d'homme. Matthieu 15:9. Le mot « sacrement » ne se trouve nulle part dans toute la Bible, cette absence étant notre premier indice que l'origine des sacrements ne vient pas de Dieu, mais qu'il s'agit d'une invention humaine. Le mot dérive d'un terme grec signifiant « mystère » et était utilisé dans les serments militaires des païens. Comme pour de nombreuses pratiques païennes, les sectes romaines et grecques ont incorporé ces pratiques idolâtres à leur religion, se rendant ainsi plus populaires et attirant davantage de fidèles payant la dîme suivez l'argent. Il existe de nombreux soi-disant sacrements, tous ayant leur origine dans la secte romaine, notamment la communion, le baptême, la confirmation, la pénitence, l'onction des malades, l'ordination et le mariage. La communion, aussi appelée l'Eucharistie, Paul rapporte ainsi les paroles du Christ concernant le pain et le vin, « Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi », et il ajoute lui-même, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Cor 11:24-27. Le Christ nous dit, « Toutes les fois que vous rompez le pain et que vous partagez une coupe de vin après un repas, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce qu'il vienne à vous, apparaisse en vous, soit révélé en vous, soit vu au-dedans de vous. » C'était une coutume juive de rompre le pain et de partager une coupe de vin après le souper. Ainsi Jésus rompit le pain et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ce qu'il disait, c'est « Mon corps est brisé afin que je puisse vivre en vous. » Quand vous rompez le pain, pensez à ce pain rompu comme à mon corps brisé et mis à mort pour vous, et faites ceci jusqu'à ce que je revienne vivre en union avec vous. » Ainsi ils se souvenaient de lui en rompant et en mangeant le pain, et leur espérance que Jésus ressusciterait en eux demeurait vivante en s'en souvenant jusqu'à ce qu'il revienne vivre en eux comme leur Seigneur et Maître régnant. Il prit la coupe de vin et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Buvez-en tout, car ceci est le sang du Nouveau Testament, qui est versé pour la rémission des péchés, qui est versé pour la multitude. » Ce qu'il dit, c'est « Lorsque vous buvez du vin de la coupe partagée après un repas, souvenez-vous que mon sang a été versé afin que le péché puisse être détruit en beaucoup. » Ainsi la coutume juive de partager une coupe de vin après un repas est devenue un moyen de maintenir vivante, chez les croyants, l'espérance qu'ils seraient libérés du péché lorsque Jésus apparaîtrait en eux pour détruire les œuvres du diable, le péché en eux. Note, cela doit se faire lors de repas où l'on partage le pain et le vin, et non dans une cérémonie de secte. Note. Cela doit se faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ou revienne, ou apparaisse de nouveau. Il y a 2000 ans, on disait aux gens de faire cela jusqu'à ce qu'ils viennent. Pourquoi leur dirait-on de faire quelque chose jusqu'à un événement qui ne se produirait pas pendant des milliers d'années? Ce n'est pas le cas, car le Christ apparaît à toutes les générations chez ses croyants qui ont purifié leur cœur pour préparer la voie au retour du Seigneur. Le Nouveau Testament est rempli de références indiquant que la seconde apparition de Jésus était alors, et non des milliers d'années plus tard. Dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus est rapporté disant que certains de ceux qui se tenaient alors avec lui, il y a 2000 ans, verraient sa venue glorieuse sur les nuées avec le royaume avant de mourir. De plus, Paul, Jésus prêchant Jésus dans l'Apocalypse, Pierre, Jacques et Jean, tous ont dit, « Bientôt le temps est proche, encore un peu de temps, il se tient à la porte. » La chrétienté ignore avec insouciance cette béante incongruité entre ce que la Bible affirme clairement et ce qu'on leur enseigne par leurs guides aveugles. Ce serait une cruelle mystification d'attendre qu'il apparaisse si les 100 dernières générations de croyants n'avaient en réalité aucun espoir de jamais le voir. Apparaître de nouveau, c'est lorsqu'il apparaît dans le cœur de croyants purifiés, ceux qui ont crucifié leur nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Car Dieu, qui a ordonné que la lumière resplendît du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. 2 Cor 4:6. Après avoir atteint la pureté, vous voyez Dieu sur le visage du Christ Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Sans un cœur pur, vous êtes maintenant, et vous serez bannis du ciel. Il apparaît au cœur purifié d'un croyant, il est vu. C'est sa seconde apparition cette fois pour ceux qui ont le cœur pur. Car Dieu, qui a ordonné que la lumière resplendît du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. 2 Cor 4:6. Le Christ est révélé dans votre cœur, vous voyez et vous avez connaissance de la gloire de Dieu, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pé 1:19. Jésus est suscité en nous pour être notre véritable Seigneur. 2 Cor 4:14. Col 2:12-3, 1 F 2:6. Et ensuite, quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en gloire. Col 3:4. Quand il paraît, vous entrez dans le royaume, et vous paraissez aussi en gloire. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Cor 3:18. Nous revêtons la nature nouvellement créée du Christ, créée selon l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. Éphésiens 4:22-24. Lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3:2-3. Seuls ceux qui lui ressemblent purs le verront apparaître. Invoquez le Seigneur avec un cœur pur. 2 Tim 2:20. Le moment de nos repas est censé être le déclencheur qui nous fait nous souvenir que le corps du Seigneur a été brisé et que son sang a été versé afin qu'il puisse ressusciter, apparaître, être vu au-dedans d'un croyant qui persévère à porter la croix intérieure du renoncement à soi et à suivre Jésus, obéir à chacun de ses commandements. Un grand Quaker des débuts, Stephen Crisp, a écrit comment le Christ lui a enseigné la même chose. Cela m'a été donné à un moment où le sentiment de ma propre indignité m'avait tellement accablé de tristesse et d'angoisse que je me croyais indigne d'aucune des créatures, car j'étais hors de l'alliance de Dieu, et de ce fait j'étais tenté de m'en priver. Alors l'espérance de la résurrection des justes jaillit en moi, et on m'apprit à attendre Dieu, et à manger et à boire dans la crainte et la vigilance, annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vînt pour être relevé afin de vivre et de régner en moi. Extrait du journal de George Fox, défendant le refus du sacrement et expliquant les véritables exigences de la communion fraternelle, une autre grande objection qu'ils les autres sectes avaient, c'était que les Quakers niaient le sacrement, comme ils l'appelaient, du pain et du vin, que, disaient-ils, ils les autres sectes devaient prendre et faire en mémoire du Christ jusqu'à la fin du monde. Nous avons eu beaucoup de travail avec les prêtres et les docteurs des autres sectes à ce sujet, et au sujet des diverses manières de le recevoir dans la chrétienté, ainsi dites, car certains le prennent à genoux, d'autres assis, mais aucun d'entre eux, de tous ceux que j'ai pu trouver, ne le prend comme les disciples le prenaient. Car les disciples le prenaient dans une chambre après le souper, mais les sectes, généralement, le prennent avant le dîner, et certains disent qu'après que leur prêtre l'a béni, c'est le corps du Christ. Mais quant à cela, le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il ne leur a pas dit à quelle fréquence ils devaient le faire, ni combien de temps, pas plus qu'il ne leur a dit de le faire toujours aussi longtemps qu'ils vivraient, ni que tous les croyants en lui devraient le faire jusqu'à la fin du monde. L'apôtre Paul, qui ne fut converti qu'après la mort du Christ, dit aux Corinthiens qu'il avait reçu du Seigneur ce qu'il leur avait dit à ce sujet, et Paul rapporte ainsi les paroles du Christ concernant la coupe. « Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi », et il ajoute lui-même, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Ainsi, selon ce que Paul rapporte ici, ni le Christ ni lui n'ont instruit le peuple de faire cela toujours, mais laissent cela à leur liberté, toutes les fois que vous en boirez. Les Juifs avaient coutume de partager une coupe de vin et de rompre le pain et de le diviser entre eux lors de leur festin, comme on peut le voir dans les antiquités juives, de sorte que le fait de rompre le pain et de boire du vin était des rites juifs qui n'étaient pas destinés à durer pour toujours. Ils baptisaient aussi avec de l'eau, ce qui ne leur paraissait pas étrange lorsque Jean-Baptiste vint avec son ministère décroissant du baptême d'eau. Mais quant au pain et au vin, après que les disciples les eurent pris, certains d'entre eux se demandèrent si Jésus était le Christ, car certains d'entre eux dirent, après qu'il eût été crucifié, nous espérions que c'était lui qui devait racheter Israël. Et bien que les Corinthiens eussent mangé le pain et bu le vin, et eussent été baptisés d'eau, l'apôtre leur dit qu'ils étaient à réprouver, toujours captifs du péché si Christ n'était pas en eux, et leur dit « Examinez-vous ». Et comme l'apôtre a dit, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne », ainsi le Christ avait dit auparavant qu'il était le pain de vie, qui est descendu du ciel, et qu'il viendrait et demeurait en eux, ce dont les apôtres témoignèrent que cela s'est accompli en eux-mêmes, et ils exhortèrent les autres à chercher ce qui descend d'en haut, mais le pain et le vin extérieur, et l'eau ne viennent pas d'en haut mais d'en bas. Maintenant, vous qui mangez et buvez ce pain et ce vin extérieurs en mémoire de la mort du Christ, et qui avez vos communions en cela, ne vous approcherez-vous pas davantage de la mort du Christ que de prendre du pain et du vin en mémoire de celle-ci. Après avoir mangé en mémoire de sa mort, vous devez entrer dans sa mort et mourir la mort spirituelle de la croix intérieure du renoncement à soi avec lui, comme l'ont fait les apôtres, si vous voulez vivre avec lui. C'est un état plus proche et plus avancé, être avec lui dans la communion de sa mort, plutôt que de seulement manger du pain et du vin en mémoire de sa mort. Vous devez avoir part aux souffrances du Christ. 1 Pé 4:12-13. Si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2:12. Si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2:11. Et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6:4. Et enseveli avec lui dans le véritable baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. Col 2, 12 Puis, ayant souffert avec lui, étant mort avec lui et ayant été enseveli avec lui, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mangez le pain qui descend d'en haut, qui n'est pas un pain extérieur, et buvez la coupe du salut qu'il donne dans son royaume, qui n'est pas un vin extérieur. Alors, il n'y aura plus à regarder aux choses qui se voient comme le pain, le vin et l'eau extérieure, car l'apôtre dit, « Les choses qui se voient sont temporelles, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. » Ainsi, il y a beaucoup d'états et de conditions à traverser avant que les gens viennent à voir cela et à participer à ce qui descend en haut, car premièrement, il y eut la prise du pain et du vin extérieur en mémoire de la mort du Christ. Cela était temporaire et non nécessaire, mais laissé à leur liberté, toutes les fois que vous le faites. Deuxièmement, il faut entrer dans sa mort, souffrir avec Christ, et cela est nécessaire au salut, et non pas temporairement mais continuellement, il faut mourir chaque jour. Troisièmement, être enseveli avec Christ. Quatrièmement, ressusciter avec Christ. Cinquièmement, après être ressuscité avec Christ, chercher les choses d'en haut, chercher le pain qui descend du ciel, et s'en nourrir et avoir communion en cela. Car le pain, le vin et l'eau extérieure viennent d'en bas, et sont visibles et temporelles. Mais, dit l'apôtre, nous ne regardons pas aux choses qui se voient, car les choses qui se voient sont temporelles, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Ainsi, la communion qui consiste dans l'usage du pain, du vin, de l'eau, de la circoncision, du temple extérieur et des choses visibles aura une fin. Mais la communion qui consiste en l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût, et qui met en lumière la vie et l'immortalité, par laquelle les gens peuvent voir au-dessus du diable qui les a obscurcis, cette communion est éternelle et subsistera. Et tous ceux qui sont dans la véritable communion cherchent ce qui est céleste et éternel, qui descend en haut, et sont établis dans le mystère éternel de la communion de l'Évangile, caché à tous les yeux qui ne regardent que les choses visibles. L'apôtre dit aux Corinthiens, qui étaient dans le désordre à propos de l'eau, du pain et du vin, qu'ils désiraient ne rien savoir parmi eux sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Extrait du journal de George Fox lorsqu'il discute de la communion ou de l'Eucharistie avec les Jésuites. Après cela, le Jésuit, ayant commencé à parler de la communion en vain à son sacrement de l'autel, partant de l'agneau pascal et des pains de proposition, puis en vain aux paroles du Christ. Ceci est mon corps, et à ce que l'apôtre en écrivit aux Corinthiens, concluant qu'après que le prêtre avait consacré le pain et le vin, ils étaient immortels et divins, et celui qui les recevait recevait le Christ tout entier. Je le suivis à travers les Écritures qu'il apportait, jusqu'à ce que j'arrive aux paroles du Christ et à celles de l'apôtre. Je lui montrai que le même apôtre dit aux Corinthiens, après qu'ils eurent pris le pain et le vin en mémoire de la mort du Christ, qu'ils étaient réprouvés, encore sujets au péché. Si Christ n'était pas en eux, or si le pain qu'ils mangeaient était Christ, il devait nécessairement être en eux après qu'ils l'avaient mangé. Ce qui, s'ils sont réprouvés, est impossible, preuve 1. De plus, si ce pain et ce vin, que les Corinthiens mangeaient et buvaient, étaient le corps du Christ, comment le Christ a-t-il un corps au ciel, preuve 2. Je lui fis aussi remarquer que tant les disciples au souper que les Corinthiens ensuite devaient manger le pain et boire le vin en mémoire du Christ, et annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, ce qui prouve clairement que le pain et le vin qu'il prenait n'étaient pas son corps. Car si cela avait été son vrai corps qu'il mangeait, alors il serait déjà venu et aurait été alors présent, et il eût été inapproprié de faire une telle chose en mémoire de lui s'il avait été alors présent avec eux, comme il aurait dû l'être si ce pain et ce vin qu'il mangeait et buvait avaient été son vrai corps. Preuve 3. Quant à ces paroles du Christ, « Ceci est mon corps », je lui dis, « Le Christ s'appelle une vigne et une porte, et il est appelé dans l'Écriture un rocher. » Le Christ est-il donc un rocher, une porte ou une vigne extérieure? Oh, dit le Jésuite, ces paroles doivent être interprétées. Eh bien, dis-je, ces paroles du Christ, « Ceci est mon corps » doivent l'être aussi. Preuve 4. Après lui avoir fermé la bouche quant à l'argumentation, je fis au Jésuite la proposition suivante. Puisque vous dites que le pain et le vin étaient immortels et divins, et le Christ même, et que quiconque les recevait recevait le Christ tout entier, qu'on fixe une rencontre entre quelques-uns que le pape et ses cardinaux désigneront, et quelques-uns d'entre nous, qu'on apporte une bouteille de vin et un pain, et qu'on les divise chacun en deux parts, et qu'ils consacrent laquelle de ces parts ils voudront. Puis que l'on mette le pain et le vin consacré et non consacré en lieu sûr, avec une garde certaine, et qu'on fasse ainsi l'épreuve de savoir si le pain et le vin consacré ne perdraient pas leur qualité, si le pain ne deviendrait pas sec et moisi, et si le vin ne tournerait pas et ne deviendrait pas aigre, aussi bien et aussi vite que ce qui n'aurait pas été consacré. Ou par ce moyen, dis-je, la vérité de cette affaire peut être rendue manifeste. Et si le pain et le vin consacrés ne changent pas, mais conservent leur saveur et leur qualité, cela pourrait être un moyen d'attirer beaucoup de gens vers votre Église, mais s'ils changent, se corrompent et perdent leur qualité, alors vous devriez confesser et abandonner votre erreur, et ne plus répandre de sang à ce sujet, car beaucoup de sang a été versé à propos de ces choses, comme au jour de la reine Marie. » À cela, le jésuite répondit, « Prenez une pièce d'étoffe neuve, coupez-la en deux, faites-en deux vêtements, et mettez l'un sur le dos du roi David et l'autre sur celui d'un mendiant, et l'un s'usera autant que l'autre. » Je demandai, « Est-ce là votre réponse ?»« Oui, » dit-il. Alors dis-je, par là, toute l'assemblée peut être satisfaite que votre pain et votre vin consacrés ne sont pas Christ. Preuve 5. Avez-vous dit aux gens si longtemps que le pain et le vin consacrés étaient immortels et divins, et qu'ils étaient le corps et le sang même et réel du Christ, et dites-vous maintenant qu'ils s'useront ou se corrompront autant que l'autre? Je dois vous dire, Christ demeure le même aujourd'hui comme hier, et ne se corrompt jamais, mais il est la nourriture céleste des saints dans toutes les générations, par laquelle ils ont la vie. Il ne répondit plus à cela, voulant en rester là, car les personnes présentes virent son erreur et qu'il ne pouvait la défendre. Les sectes romaines, grecques et certaines protestantes, les protestataires disent que le vin et le pain sont changés, consacrés, rendus saints pour devenir le corps et le sang du Christ, par le fait que le prêtre récite une prière spéciale. Ce ne sont rien d'autre que des mots magiques prononcés par le prêtre pour changer le pain en chair du Christ et le vin en sang du Christ. Pourrait-on imaginer quelque chose de plus ridicule que les paroles magiques d'un sorcier, un charabia? Mais à cause du faste et des apparences, robes, bâtiments impressionnants, le sanctuaire des chœurs, des orgues, des cierges, beaucoup de gens hochant la tête, nous acceptons de tels mots magiques comme vérité, ce dont nous ririons dans d'autres cultures, si nous n'étions pas entourés d'une splendeur semblable. Superstition païenne, la pire pratique superstitieuse vient de la secte romaine, qui croit que sa messe où l'on mange le pain et boit le vin est un sacrifice nécessaire pour les péchés. Francis Raugel s'en prend à cette abomination doctrinale, qui considère le sang versé par Jésus comme une expiation insuffisante pour les péchés, sont de la secte romaine. Sacrifice non sanglant de la messe ne sert absolument à rien, car là où il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, 22, donc sont de la secte romaine. Sacrifice est abominable, et c'est une idole. Que le sacrifice de la messe soit entièrement inutile doit être évident pour tous ceux qui reçoivent la doctrine des apôtres. Par une seule offrande, Christ a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Christ est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, 2. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. De ces doctrines, l'inefficacité des pénitences est également évidente, et il est manifeste que s'appuyer sur elles et sur des messes pour l'expiation du péché et pour être agréé de Dieu est idolâtre, parce que ceux qui s'y confient cherchent d'autres objets de propitiation pour leur péché et d'acceptation auprès de Dieu que celui que Dieu a présenté, à savoir Christ. Rome 3, 25, par qui seul nous avons accès au Père. Jean 14, 6. L'histoire de la pratique superstitieuse de l'Eucharistie, qui constitue la base de la communion protestante, est la suivante. Astérisque l'Église primitive prenait ensemble son repas du soir dans des maisons, rompant le pain et partageant la coupe après le repas, une tradition juive, afin de se souvenir du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne apparaître en eux et être leur Seigneur conducteur pour toutes leurs pensées, paroles et actions. Le repas et la maison furent abandonnés pour devenir une cérémonie dans le bâtiment de la secte, une offrande rituelle, le sacrifice pour l'expiation du péché. À l'exemple des religions païennes à mystère, le rituel fut déclaré sacré sacrement et ne pouvait donc être accompli que par des prêtres sacrés. Le pain et la coupe devinrent des objets saints, sacrés, et l'autel devint le lieu où la victime était offerte. Tous les autres regardaient le prêtre changer magiquement le pain en corps de Jésus et le vin en son sang. Le prêtre rompit ensuite le pain, sacrifiant le corps de Jésus, mangea son corps le pain et but son sang le vin, achevant ainsi de nouveau le sacrifice de Jésus comme leur offrande. L'assistance regardait la représentation théâtrale avec une grande crainte, croyant que le pain et le vin étaient réellement devenus Dieu. Bien des années plus tard, les membres authentiques de la secte furent invités à participer, mais seulement après que tous les autres eurent été renvoyés. Les réformateurs protestants ne purent rompre avec cette pratique inventée par l'homme, certains s'accrochant à la superstition selon laquelle le pain et le vin étaient réellement changés en son corps et son sang, d'autres sectes protestantes insistant sur le fait que les consommés rendaient le consommateur lui-même saint. Astérisque Frank Viola et George Barna, Pagan Christianity, Tyndall Books 2008, p. 193-195. Les auteurs de Pagan Christianity, Frank Viola et George Barna, ont accompli un travail remarquable et érudit de traçage de la dévolution du christianisme, identifiant clairement et documentant abondamment la source païenne de presque chaque détail du christianisme d'aujourd'hui. Cependant, ils ont échoué à 1. Identifier le christianisme comme étant devenu Babylone, 2. Identifier le mensonge le plus mauvais et le plus destructeur dans le christianisme, appeler la Bible la parole, 3. Identifier le véritable évangile du Christ. Et 4. Identifier la voie pour atteindre les promesses de l'évangile. Au lieu de cela, ils ont promu les églises de maison comme remède universel au désastre appelé christianisme, désastre qu'ils avaient pourtant peint avec expertise. Leur service d'église de maison était décrit comme des gens se relayant pour parler depuis leurs esprits charnels de leurs expériences avec le Seigneur, certains chantant quand ils en avaient envie. Leur service décrit est une imitation du culte décrit en 1 Cor 14, 29, 33. Cependant, un véritable service est dirigé par le Saint-Esprit, sans que personne ne parle ni ne chante à moins que le Saint-Esprit ne contrôle clairement leurs paroles. De la parole du Seigneur au-dedans, une parole prononcée par l'Esprit exige que tu entendes ce que l'Esprit te dit, ne parle que ce qu'il t'est dit de dire. Dans Jean 6, 27, 28, le Christ commence son discours « Mangez ma chair, buvez mon sang » par cette déclaration, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez plutôt pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car Dieu le Père l'a autorisé et attesté de son sceau. » Je suggère que le sacrement d'une secte consistant à manger du pain et boire du vin pourrait difficilement être décrit comme « travailler pour la nourriture », mais est plutôt le substitut d'un paresseux à un travail directement ordonné, que le Christ décrit suffisamment pour clore tout argument contraire. Le Christ distingue encore « Je suis le pain de vie, c'est le pain qui est descendu du ciel, mais non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts, car celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jean 6, 48, 58. Le Christ conclut par « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et donnent la vie. » Jean 6, 59, 63. Il est clair que ces paroles, que nous devons travailler à entendre en nous tenant tranquilles pour attendre et écouter, sont le pain que nous devons manger, en écoutant, en entendant et en obéissant, en nous repentant. Luc 6, 47, 48. Les paroles que nous entendons sont le pain, prononcé par l'Esprit, lequel Esprit est le sang et la vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1, 27. Les paroles que nous l'entendons nous dire sont esprit et nous communiquent la vie de Dieu. Jean 6, 63. Laquelle vie de Dieu est Christ? Jean 1, 5, 14, 6. De sorte que Christ est formé en vous. Gal 4, 19. Jusqu'à ce que finalement Christ soit pleinement formé et réellement ressuscité en vous. 2 Cor 4, 14. Col 2, 11, 12, 3. 1 F 2, 5, 6. Rome 8, 11. Vous voyez alors Christ, la gloire de Dieu, apparaître dans votre cœur et vous êtes témoin qu'il apporte votre salut et la vie éternelle. Lors de la dernière scène, peut-être l'exemple le plus grand et le plus dramatique de son enseignement fut le lavement des pieds des disciples, montrant que celui qui voudrait être le plus grand doit être le serviteur de tous. Si nous devions suivre cet enseignement littéralement, votre prédicateur laverait régulièrement les pieds de toute la congrégation pour montrer son humilité. Mais curieusement, une telle cérémonie n'est pas maintenue par des hommes qui veulent la première place dans l'assemblée et aiment être salués par des titres tels que révérend signifiant digne d'adoration, père, frère, ancien, évêque, sœur, prophète, prophétesse, docteur, enseignant, pasteur, etc. Je dis cela, non pour suggérer qu'une telle cérémonie soit nécessaire, mais seulement pour illustrer combien les inventions de sacrements sont sélectives, car les exemples physiques que Jésus a utilisés pour illustrer ses enseignements devaient être suivis seulement selon un principe spirituel, et non en cérémonie physique. Voir la note 2 à Jean 13 pour la compréhension spirituelle du lavement des pieds, totalement perdue dans la chrétienté. Il y a un autre point à souligner concernant les instructions de Paul aux Corinthiens. Lorsqu'il parlait de condamnation en mangeant, il faisait référence au fait que certains n'attendaient pas l'arrivée de leurs pauvres frères avant de manger leur repas du soir, ces pauvres n'ayant ni maison ni nourriture, et oubliant que tous les croyants formaient un seul corps, ils se mettaient à manger et à boire avant l'arrivée des pauvres s'attirant ainsi la condamnation par leur conduite indigne. 1 Cor 11, 20, 28. Lorsque vous vous réunissez en un même lieu, n'est-ce pas pour manger le souper du Seigneur? Car au moment de manger, chacun commence à prendre son propre souper avant même que les autres n'arrivent, l'un a faim tandis qu'un autre est ivre. Quoi, n'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont pas de nourriture? Que vous dirai-je? Dois-je vous louer pour cela? Je ne vous loue pas, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis, que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir mangé, il prit la coupe, disant, « Cette coupe est le nouveau testament en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, mais que chacun s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, Ainsi, les croyants mangeaient ensemble. Certains étaient si pauvres qu'ils n'avaient ni nourriture ni maison. Certains mangeaient avant l'arrivée des pauvres, montrant du mépris pour leurs frères pauvres, montrant du mépris pour le corps de Christ dans lequel tous sont un, comme le pain que Christ a rompu en morceaux, pour signifier que son corps devait être brisé, afin qu'il puisse ensuite être relevé en beaucoup, et dont nous devons nous souvenir chaque fois que nous mangeons et buvons, jusqu'à ce qu'il revienne à nous. Mais en mangeant sans attendre les frères pauvres, ils montraient du mépris pour le corps de Christ des croyants, eux-mêmes compris, et par conséquent mangeaient une condamnation contre eux-mêmes. Nous devons nous souvenir de lui chaque fois que nous mangeons et buvons, jusqu'à son retour. Remarquez, cela ne parle en aucun cas de manger et de boire comme d'un sacrement ou d'une cérémonie, le pain faisait partie d'un souper, le vin venait après. Ce n'était qu'un souvenir du corps brisé du Christ et de son sang versé, afin qu'à son retour personnel vers nous, nous puissions vivre en et par lui. Et comme les disciples, ceux qui ont reçu l'accomplissement du retour du Christ en ne poursuivraient pas cette pratique après le souper. Dans Luc 13, 23-28, Jésus a dit qu'il bannira du ciel ceux qui pensent avoir droit au ciel parce qu'ils auraient supposément mangé et bu avec lui, ce qui prouve que les rituels de communion et de l'Eucharistie n'ont aucune valeur. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et frapperez à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondra et vous dira, « Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez. De la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. » Il sait tout, mais son « connaître » de vous consiste pour lui à devenir un avec vous, ce qui survient après que vous avez été crucifié. C'est alors que nous le voyons pour la première fois avec un cœur pur et que nous entendons sa voix comme le tonnerre sur les eaux, la première fois. Jusque-là, nous sommes en relation avec la parole et la lumière au-dedans de nos cœurs, ainsi qu'avec le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre d'unité avec Jésus, qui est saint, sans malice et séparé des pécheurs. Vous pouvez l'appeler Seigneur, vous pouvez l'appeler Maître, mais Judas aussi le faisait. Appeler Jésus Seigneur ne fait pas de lui votre Seigneur. Il est votre Seigneur seulement s'il vous a libéré de tout péché, s'il a détruit votre esprit charnel, s'il vous a purifié, et s'il fournit toutes vos paroles à dire, toutes vos pensées et tous vos actes à accomplir. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Cela correspond très bien à ceux qui pensent que la communion ou l'Eucharistie consiste à manger et à boire en sa présence, et prouve que les rituels de communion et de l'Eucharistie n'ont aucune valeur. Jésus nie qu'ils aient jamais mangé et bu en sa présence et nie la validité de leur origine. Bien sûr, il sait tout, y compris qu'ils ont continué à pécher jusqu'à la mort. Son refus est un refus de les connaître en vertu du fait qu'ils auraient mangé et bu en sa présence et qu'il aurait enseigné parmi eux deux choses qu'ils pensaient avoir eu lieu et qui, selon eux, leur donnaient droit d'entrer au ciel. Ceux qui meurent en péchant encore seront bannis du ciel. Il ne vous connaît que si vous avez été crucifié. Mais il dira, « Je vous le dis, je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité malfaiteur, péchant encore, chaque homme est jugé selon ses paroles et ses œuvres, y compris ceux qui prétendent être chrétiens, Dieu ne fait exception de personne. » De la parole du Seigneur au-dedans, souviens-toi, toute personne qui pêche le renie comme Seigneur et Maître. Si tu pêches encore, tu appartiens au péché et non à moi. Regarde-moi, ainsi aucun péché n'a de place en moi. Tout le monde s'attend à ce que Jésus soit leur excuse. Je les ai avertis, je leur ai donné les exigences et prêché les exclusions, ils ne devraient rien attendre d'autre ni d'autre conclusion. Tous les hommes ont entendu l'appel à se repentir. Les gens doivent payer le prix de leur conduite des plus effrontés. Si vous ne l'avez pas vu et ne l'avez pas écouté, vous ne le connaissez pas non plus. À moins d'être nettoyé et purifié par l'Esprit du Seigneur qui détruit le péché en l'homme, le cœur de chaque homme commence rempli de mal, rempli de péchés souillés et disqualifié pour le ciel. De la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Il sait tout, mais son connaître de vous consiste pour lui à devenir un avec vous, ce qui survient après que vous avez été crucifiés. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous, vous serez jetés dehors. Luc 13, 23-28 et le véritable souper du Seigneur est révélé dans Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apoc 3, 20 La porte est le cœur de chaque homme, le coup frappé est sa douce supplication anonyme vous pressant de vous détourner du mal. Ouvrir la porte, c'est croire que sa supplication est vraie et se repentir du mal qu'il met en lumière, en changeant votre conduite en conséquence. Comme l'a écrit le Quake des débuts, habitant du royaume, Stephen Crisp, si un homme ouvre son cœur et reçoit Christ lorsqu'il vient, alors vous trouverez chez cet homme un tel changement que, allez éprouvez-le par la même tentation qu'il a vaincu la semaine dernière, elle ne le vaincra plus maintenant, quoiqu'il soit aussi faible que l'eau, et aussi enclin à la corruption et à l'iniquité qu'auparavant, pourtant, ayant maintenant en lui une foi engendrée que la grâce de Dieu le défendra, il se tient hors des pièges du diable. Maintenant, cet homme se confiant en cette grâce jusqu'à ce que son péché et son iniquité soient purgés, alors voici le temps de dresser la table. Maintenant il y a un cœur pur, et l'hôte céleste est venu, et les mets délicats du royaume lui sont apportés pour sa nourriture. Maintenant, dit Christ, j'entrerai et je souperai avec lui, et mon Père viendra aussi et nous souperons avec lui et lui avec nous. Cela n'arrive jamais à personne tant que la table et le cœur sont souillés, car la table doit être suélique, 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 et le diable et le péché jetés dehors, et alors le Seigneur confirmera et ratifiera et scellera l'alliance, de sorte qu'il y a ici un sceau avec un témoin. Quand un homme a ce témoignage de l'amour de Dieu, que Dieu est réconcilié avec lui en Christ, alors Christ entrera, et il amènera son Père, et ils souperont avec lui, et c'est ce qui donnera une satisfaction complète à une telle âme. George Fox a également un excellent écrit sur les deux soupers du Christ, 1. La dernière scène, la même nuit où il fut livré avant d'être crucifié, et 2. Le souper après qu'il fut ressuscité, auquel il appelle les gens dans Apoc 3, 20, entendre sa voix et ouvrir la porte, et il soupera avec eux, et il soupera avec moi. De la parole du Seigneur au-dedans, sacrement, embrasement, continuez à faire ce que vous n'êtes pas censé faire, puis ensuite être accablé de chagrin à propos de ce que vous avez fait. Un embrasement est un grand incendie ou une grande destruction. Église, être éternellement désolé de ce que vous avez fait, tout en vous retournant aussitôt pour le refaire, elle se nourrit d'elle-même. Grande est la destruction de ces lieux de culte. Le milieu chrétien lui-même est conforme à la mort. En vérité, ces gens m'invoquent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ceux qui portent la marque de la bête auront 30 jours pour se repentir. Sortez d'elle, mon amour. Il n'y a aucune église au monde que le Christ ait établie spécifiquement. Comme Daniel, vous êtes captif des Chaldéens. Votre lieu de culte est rempli d'oiseaux impurs. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, vous êtes souillés. Baptême d'eau. Le ministère et le baptême de Jean étaient destinés uniquement aux Juifs, conformément à la tradition juive des ablutions cérémonielles. En voici quelques-unes. Pour les consacrer ensuite, toi Moïse, tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Exo 29, 1-4. Celui qui est purifié lavera ses vêtements, rasera tous ses poils, et se lavera dans l'eau, afin d'être pur, après quoi il entrera dans le camp, mais il demeurera 7 jours hors de sa tente. Lève 14, 8. Quiconque touchera quelque chose qui était sous lui sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera l'une de ces choses lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Lève 15 dit: voici comment tu feras pour les purifier, tu les aspergeras de l'eau expiatoire, ils raseront tout leur corps, laveront leurs vêtements, et ainsi ils seront purs. Non 8, 11. Quand viendra le soir, il se lavera avec de l'eau, et au coucher du soleil, il pourra rentrer dans le camp. 2:23-11. Le baptême de Jean, sur le plan cérémoniel, lavait les péchés passés des Juifs, pourvu que les hommes montrent les fruits de la repentance, un mode de vie changé, avec un commencement de repentance, partager leur surplus avec ce qui manquait du nécessaire, ne profiter de personne, ne dépouiller personne, n'opprimer personne, ne pas mentir, ne pas en vouloir davantage, et ne pas se plaindre. Mais le baptême de Jean ne servait qu'à préparer les gens à recevoir le ministère du Christ, et il n'excusait en aucune façon leurs péchés futurs, ni ne les dispensait de la nécessité de devenir de vrais disciples du Christ qui finissent par produire le fruit de l'Esprit. Stephen Crisp, Quake des débuts et habitant du royaume, parlait du baptême d'eau. Je voudrais que des hommes et des femmes soient baptisés d'un baptême qui leur fasse du bien. Certains ont vu la vanité et la faiblesse de ce baptême qu'on appelle le baptême des enfants, et c'est pourquoi ils iraient se faire baptiser et plonger dans l'eau jusqu'à en avoir la tête et les oreilles couvertes, mais ils en ressortaient avec le même cœur et le même esprit, et la même âme souillée. Jean baptisait dans le Jourdain, et tout Jérusalem et la Judée venaient être baptisés par lui. Parmi eux se trouvaient des gens qui ensuite crucifièrent le Seigneur Jésus-Christ, qui ne leur avait jamais fait de mal durant sa vie, mais beaucoup de bien. Au commencement de l'Église primitive, il, Pierre en particulier, maintenait la circoncision juive, les lois alimentaires et le baptême d'eau juif de Jean. Pierre appliqua même certaines de ses pratiques aux païens, jusqu'à ce que, le Saint-Esprit le corrige au sujet des aliments, Paul le corrige encore au sujet des aliments, et le Concile des apôtres publie des directives différentes pour les païens. Puisque Christ et Jean-Baptiste parlaient l'un et l'autre d'un meilleur baptême, Ce baptême fut ensuite supprimé de la pratique chrétienne, et la foi maintint une seule foi, un seul Seigneur, et un seul baptême, le baptême de feu ou du Saint-Esprit. Il est clair que, tout comme il n'y a pas plusieurs seigneurs, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4:5 Jean a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3:11 Jésus a dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes 1:5 Paul a dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Éphésiens 4:5 Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que je vous ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre, car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. 1 Corinthiens 14:17 Dans ce passage, Paul n'est manifestement pas content d'avoir même baptisé d'eau la poignée de personnes qu'il a baptisées. Il parle clairement du baptême d'eau parce que les Corinthiens se déclaraient appartenir à Paul ou à Apollo, qui ne connaissaient que le baptême d'eau. Actes 8:13-22 Simon le magicien crut et fut baptisé. Il tenta d'acheter le pouvoir d'imposer les mains. Actes 8:13-18 Pierre lui dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie Dieu que peut-être la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel âmé et dans les liens de l'iniquité. » Actes 8:22 Est-ce que cela ressemble à un homme sauvé par la foi ou par le baptême, dont le cœur n'était pas droit, avec de la méchanceté dans ses pensées, dans le fiel âmé et les liens de l'iniquité? On ne peut pas être sauvé et être encore dans la méchanceté, les liens de l'iniquité et le fiel âmé. Pierre a dit peut-être qu'il pourrait être pardonné s'il se repentait et priait pour le pardon. Mais être pardonné n'est pas être sauvé. Il est clair que l'unique baptême nécessaire est le feu du Saint-Esprit, qui circoncit le cœur, en engloutissant le péché et l'iniquité, et qui dépouille le corps de mort et les péchés de la chair, afin que nous soyons sans péché, baptisés en Jésus-Christ en sa mort, ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin qu'il marche en nouveauté de vie. Pierre confirme la même chose, et le baptême, qui en est la figure, vous sauve maintenant non le dépouillement des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, 1 Pierre 3:21. Notez, le baptême dont parle Pierre est le baptême de la mort, aboutissant à la résurrection de Jésus-Christ au-dedans d'un homme. De la parole du Seigneur au-dedans, évite le baptême du monde. Et éviter signifie se tenir à l'écart, rester loin, s'abstenir, surtout pour des raisons morales. Le baptême du monde, c'est le baptême d'eau, aspergé, plongé, immergé dans l'eau. Si vous avez été baptisé d'eau par le passé, ne vous tourmentez pas en pensant que cela soit retenu contre vous. Mais si vous comprenez que l'unique baptême nécessaire est le baptême de feu pour mettre à mort la nature humaine égoïste, alors se faire baptiser d'eau, c'est nier la véritable espérance du véritable salut. Le baptême d'eau n'est qu'une œuvre bon marché et morte, accomplie dans la volonté de l'homme. Si le baptême d'eau pouvait sauver une personne, alors Jésus ne serait même pas nécessaire, puisque le baptême d'eau par Jean-Baptiste parmi les Juifs existait avant même que Jésus ne commence son ministère. Porter la croix, s'exposer à entendre ses commandements adressés à vous, et obéir à ce que vous entendez Jésus vous dire, voilà l'unique voie du salut, être délivré de tout péché, même du désir de péché. George Fox a écrit un texte remarquable, distinguant le baptême du feu inextinguible du Saint-Esprit de l'eau extérieure. Il fait deux observations cruciales. 1. Jean déclare clairement dans quel but il a été envoyé baptiser d'eau, à savoir afin que Christ soit manifesté à Israël, aux Juifs, qui avaient les figures et les ombres de Christ. Car Jean ne dit pas qu'il est venu baptiser d'eau afin que Christ soit manifesté aux païens, aux nations, mais à Israël. Et 2. Dès que le ministère de Jean fut achevé ainsi que son baptême, celui de Jésus commença, à partir de ce moment-là Jean fut jeté en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant les vents. Marc 1:14-15, Matthieu 4:12-17 Afin de la sanctifier et de la purifier l'Église des croyants par le lavage d'eau par la parole, Éphésiens 5:26-27 Vous devez habituellement rechercher et entendre l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, afin d'être lavé intérieurement et extérieurement par une eau sainte et pure, et obéir continuellement aux paroles entendues de la bouche de Dieu, pour être sans cesse sanctifié. L'eau n'est pas une eau extérieure, et la parole n'est pas le fait d'entendre la Bible, c'est la puissance de la parole de Dieu Jésus-Christ qui a dit « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi ». La plupart des sectes ont aussi le « baptême », christening comme sacrement, ou simplement le baptême des enfants, toujours avec des frais ou un don attendu par la secte d'origine. Il n'y a absolument aucun fondement scripturaire pour ce baptême. Il provient de la croyance erronée qu'il faut être baptisé d'eau pour être sauvé, et donc cela s'appliquerait aussi aux enfants. Dieu n'est pas si injuste qu'il bannirait un nourrisson qui n'a pas été aspergé d'eau et embrasserait un autre qui a été aspergé ou immergé. Cela ferait de lui un Dieu qui juge sur une technicité ou un rituel ridicule, totalement dépourvu d'équité et de justice. Cela suppose en outre que les nourrissons ont besoin d'être sauvés, ce qui est encore plus absurde. Quel péché les nourrissons ont-ils commis? Tiré du journal de George Fox, il y avait quelques baptistes dans ce pays-là que je désirais voir et avec qui je voulais parler parce qu'ils s'étaient séparés du culte public. Alors Oates, l'un de leurs principaux enseignants, et d'autres de leurs chefs avec plusieurs de leurs gens, vinrent nous rencontrer à Bath, où nous avons discuté avec eux. L'un d'eux dit « Ce qui n'est pas de la foi est péché ». Je leur demandai alors ce qu'était la foi et comment elle était créée dans l'homme, mais ils éludèrent cela et parlèrent de leur baptême d'eau. Je leur demandai ensuite si leur montagne de péché avait été abaissée et nivelée en eux, et si leurs voies rudes et tortueuses avaient été rendues lisses et droites en eux. Ils pensaient que les Écritures parlaient de montagnes et de chemins extérieurs, mais je leur dis qu'ils devaient les trouver dans leur propre cœur, ce qui sembla les étonner. Nous leur demandâmes, qui a baptisé Jean-Baptiste, qui a baptisé Pierre, Jean et les autres apôtres, et nous les poussâmes à prouver par l'Écriture que ceux-ci avaient été baptisés d'eau, mais ils gardèrent le silence. Et de même, lui Paul était réservé au sujet du baptême d'eau, mais lorsqu'il vit qu'il commençait à faire des sectes à ce sujet, certains exaltant Paul, d'autres Apollo, il les jugea, les appela charnels, et rendit grâce à Dieu de n'avoir baptisé que peu de personnes, déclarant clairement qu'il était envoyé pour prêcher l'Évangile, et non pour baptiser, et il les ramena à l'unique baptême par l'unique esprit, dans l'unique corps dont Christ l'homme spirituel est la tête, et il exhorta l'Église, tous à boire dans ce seul esprit. Car il affirmait dans l'Église l'unique foi dont Christ était l'auteur, et un seul baptême, celui de l'esprit dans l'unique corps, et un seul Seigneur Jésus-Christ, baptiseur spirituel, dont Jean disait qu'il viendrait après lui. Et plus encore, l'apôtre déclara que ceux qui adoraient et servaient Dieu dans l'esprit étaient de la circoncision de l'esprit, qui n'était pas faite de main d'homme, par laquelle le corps des péchés de la chair était dépouillé, circoncision dont Christ est le ministre. Et bien que les Corinthiens aient mangé le pain et bu le vin, et aient été baptisés d'eau, l'apôtre leur dit qu'ils étaient réprouvés encore sujets au péché, si Christ n'était pas en eux, et il leur dit de s'examiner eux-mêmes. Et pendant que j'étais à Londres, j'allai un jour lui rendre visite, à celui qu'on appelait l'écuyer Marsh, qui avait témoigné beaucoup de bonté tant envers moi qu'envers les amis. Il se trouva que j'y allais lorsqu'il dînait. À peine eut-il entendu mon nom qu'il me fit appeler pour monter, et voulut que je m'assoie avec lui pour dîner, mais je n'avais pas la liberté de le faire. Plusieurs personnes importantes dînaient avec lui, et il dit à l'une d'elles, qui était un grand papiste, « Voici un Quaker que vous n'avez pas encore vu. » Le papiste me demanda si je reconnaissais le baptême, christening des enfants. Je lui répondis qu'il n'y avait pas d'écriture pour une telle pratique. « Quoi, dit-il, pas pour le baptême, christening des enfants ?» Je dis « Non ». Je lui dis « Nous reconnaissons l'unique baptême par l'unique esprit dans un seul corps. » Mais jeter un peu d'eau sur le visage d'un enfant et dire que c'est le baptisé et le christène, il n'y a pas d'écriture pour cela. Jésus a dit « en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 5. Certains disent que le verset ci-dessus prouve le baptême d'eau, mais naître d'eau, c'est être lavé par ses paroles prononcées, entendues et obéies. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier l'Église des croyants par le lavage d'eau par la parole. Éphésiens 5, 25, 26 sanctifie les rends les saints, purifie, consacre par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17 Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15, 3 Mais Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Jean 13, 8 Jésus doit aussi nous laver, avant que nous puissions avoir quelque part avec lui. Si nous sommes encore dans nos péchés, Jésus ne se joindra pas à nous, il ne nous accueillera pas au ciel, il ne nous sauvera pas. Tiré de la parole du Seigneur au-dedans, seuls ceux qui veulent être propres peuvent entendre. Nous devons aller à lui, écouter en silence ses paroles, les entendre, puis leur obéir. Ces paroles que nous entendons, gardons, obéissons et mettons en pratique sont ce qui nous purifie et nous sanctifie. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier l'Église des croyants par le lavage d'eau par la parole, afin de se la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25, 27 Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15, 3 Le baptême donne absolument aucune valeur. Vous devez faire l'expérience de l'unique baptême, le baptême de feu accompli par le Seigneur lui-même, qui vient après beaucoup d'attentes, d'écoutes, de veilles, d'auditions, d'obéissance, de souffrances et de tribulations. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, les cœurs aspergés et purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Cette eau n'est pas l'eau du baptême de Jean. Cette eau est l'eau du ciel, l'eau de la parole, l'un des trois témoins sur la terre. Et par cette eau, les croyants nés de nouveau sont lavés leurs pensées, leurs âmes, leurs esprits, et dans leur corps, avec cette eau pure céleste. Le troisième témoin sur la terre, le sang de Jésus, est aspergé dans leurs cœurs et leurs consciences. Par ce sang ils sont sanctifiés, et ils sont purifiés de toutes leurs œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant et de ne plus servir leurs œuvres mortes. Voilà les événements que vous devez voir, ressentir et expérimenter pour être un véritable croyant au Fils de Dieu. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord pour un. 1 Jean 5, 8 Ceux qui sont véritablement nés de nouveau viennent à connaître l'eau qui est un témoin sur la terre, par laquelle ils sont lavés, leurs pensées, leurs âmes, leurs esprits, et dans leur corps, avec cette eau pure. Et ceci est un témoignage vu sur la terre avec la lumière. Pour ceux qui y croient, elle manifeste ces deux témoins le sang et l'eau sur la terre, et avec la lumière ils voient l'eau bénite contrefaite du pape, qui a été instaurée après les jours des apôtres, et avec la lumière ils témoignent contre elle qu'elle n'est pas le témoin de Dieu, ni une institution de Dieu. Ainsi les enfants de la lumière, qui croient en la lumière, leurs corps, leurs âmes, leurs esprits et leurs pensées sont lavés et rendus purs dans cette eau pure, propre et sainte, qui vient d'en haut, du Dieu saint et pur, laquelle eau est l'un de ses témoins sur la terre. Certains d'entre vous, issus de sectes évangéliques, vous dites maintenant, « Mais qu'en est-il de la grande mission ?» Je dis que les évangélistes d'aujourd'hui ignorent totalement ce qu'est réellement la grande mission. Regardons-la. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Premièrement, personne n'est censé aller prêcher ou enseigner s'il n'a pas été formé, rendu parfait, et rétabli à l'image de Dieu que possédait Adam avant la chute, puis autorisé et envoyé. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 38. Remarquez qu'il envoie les ouvriers. Deuxièmement, les véritables ouvriers de Christ ne prononcent que les paroles qu'ils entendent l'Esprit de Dieu leur dire de prononcer. Celui qui parle de lui-même qui dit ses propres paroles cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Jean 7, 18. Tout comme Jésus ne disait que ce qu'on lui avait dit de dire, nous devons attendre jusqu'à pouvoir entendre quoi dire, sinon nous cherchons notre propre gloire, c'est faire ta volonté au lieu de notre volonté. Troisièmement, les disciples ne doivent pas seulement baptiser, mais doivent être formés et experts pour leur apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé. Pas seulement enseigner les commandements, n'importe qui peut leur lire la Bible, mais leur apprendre à observer et à obéir à tout, dans tout ce que je vous ai commandé. Ainsi, ces véritables disciples sont censés nous apprendre à observer tous ces commandements, cliquez pour voir la liste. Mais la chrétienté ignore tous ces commandements. De la parole du Seigneur au-dedans, ils ont vidé Jésus, ils ont rendu la Bible creuse. Où est l'enseignement des commandements du Christ dans la chrétienté aujourd'hui, et qui montre aux gens comment observer tous ces commandements, qui enseigne « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait » Matthieu 5, 48. Et ensuite vous dit comment vous y conformez, qui enseigne « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice » Matthieu 6, 33, qui enseigne « Repentez-vous, périssez » Luc 13, 3, 5, qui enseigne « Ne pêche plus » Jean 8, 11, 5, 14, qui enseigne « Croyez en dépendez de faites confiance et obéissez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière » Jean 12, 36. Qui enseigne « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive » Luc 9, 23, qui enseigne « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14, 33, qui enseigne « Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera » Matthieu 10, 39. Quoi, pas votre prédicateur, alors ce n'est pas un véritable disciple du Christ, mais un ministre dupé de Satan, transformé pour paraître comme un ministre de justice. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Un véritable disciple du Christ est instruit par l'Esprit de Dieu, exactement où aller, quand y aller, et quoi dire lorsqu'il arrive. Le Maître, c'est Christ, tous les autres sont censés être des élèves. Si l'élève commence à enseigner avant que le Maître ne l'ait autorisé, alors l'élève aveugle pense qu'il voit et qu'il est supérieur au Maître. Luc 6, 39, 40. Vous devez être établi et doté directement par Christ, son don avec autorité, son autorisation directement de lui à vous, non par votre secte, non par le gouvernement, non par une congrégation, non par une université, non par des hommes. être autorisé à prêcher ou enseigner s'accompagne de sa puissance et de son autorité, mais vous devez d'abord être suffisamment purifié du mal dans votre cœur, afin de pouvoir entendre chaque mot à dire tel que l'Esprit le fournit immédiatement avant de parler. Lorsque vous êtes autorisé, tout vous est ordonné, tout ce qui doit être fait, et chaque parole à prononcer. De la parole du Seigneur au-dedans, comme les apôtres, toi aussi tu dois être purifié. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu, à temps qu'il dirige tes pas. J'ai été assurément envoyé, comme j'ai été envoyé, ainsi toi aussi tu dois l'être. Vous qui prêchez sans autorisation, vous serez démasqués, vous serez exposés. Servir sans entendre met ta vie en danger. Je travaille avec les aveugles, mais si tu penses voir, et que tu n'es pas avec moi au ciel, je ferai de toi un objet de moquerie. Jésus a dit qu'un homme qui prêche depuis son propre esprit cherche sa propre gloire. Un tel homme affirme essentiellement que ses propres paroles et ses propres actes sont supérieurs à ce que seraient ceux de Jésus si Jésus avait pris ses propres décisions sur ce qu'il fallait dire et faire. Un tel homme cherche votre argent, votre admiration et votre soumission à son autorité. Les prédicateurs de la chrétienté sont condamnés pour chercher leur propre gloire, puis accepter un salaire pour leurs paroles sans valeur, car même faire payer de vraies paroles de vie, comme Balaam, prononcées par l'Esprit de Dieu, est expressément interdit par Pierre et Jésus. Cherchant leur propre gloire, les prédicateurs de la chrétienté parlent depuis leurs esprits charnels, la nature de mort, et dans leurs vaines imaginations issues du mal de leur cœur. Ainsi baptisés dans l'eau, sans leur apprendre à observer toutes choses dans tous les commandements ne vaut rien, et produit des convertis deux fois plus prêts pour l'enfer que les faux disciples. Matt 23:15. Si ces véritables disciples enseignaient à obéir à tous les commandements, ceux qui obéissent seraient baptisés du Saint-Esprit, l'unique baptême nécessaire, le baptême de feu et de mort. Enfin, il y a ceux qui disent « Jésus a été baptisé d'eau, donc cela prouve que c'est nécessaire ». Si vous suivez cette logique, vous devez vous faire circoncire, quel que soit votre âge, quelle que soit la douleur, suivre toutes les lois alimentaires, observer toutes les cérémonies juives, etc. Mais Jésus était juif, et il devait accomplir parfaitement la loi pour vivre sans péché, la loi étant remplacée par la nouvelle alliance qu'il est venu établir. Bien sûr, rien de tout cela n'est requis, et les pratiquer ne ferait que vous placer sous la condamnation de la loi. Et rappelez-vous, il n'existe absolument aucune mention de Jésus baptisant qui que ce soit d'eau. Confirmation, il n'existe pas non plus d'écriture pour soutenir cela. C'est une invention totale de l'homme dans la secte romaine, présupposant que le baptême des enfants inventés n'est pas suffisant pour maintenir une personne qui mûrit suffisamment sauvée. Mariage, je cite l'introduction de William Penn au journal de George Fox. Leur manière de se marier leur est propre, et montre un souci particulier, distinct de celui des autres sociétés qui professent le christianisme. Ils disent que le mariage est une ordonnance de Dieu, et que Dieu seul peut, à juste titre, unir l'homme et la femme dans le mariage. C'est pourquoi ils n'emploient ni prêtre ni magistrat, mais l'homme et la femme concernés se prennent l'un l'autre pour mari et femme en présence d'un certain nombre de témoins dignes de foi, se promettant l'un à l'autre, avec l'aide de Dieu, d'être aimants et fidèles dans cette relation jusqu'à ce que la mort les sépare. Cette société refuse les cérémonies de l'anneau et du prêtre par conscience, avec un appui raisonnable dans les exemples de l'Écriture, montrant que le prêtre n'avait aucune part au mariage sinon d'être l'un des témoins, devant lesquels les Juifs avaient coutume de se prendre en mariage. Ce peuple considère la nécessité d'un prêtre pour le mariage comme une imposition destinée à accroître le pouvoir et les profits du clergé. Ils estimaient que l'usage de l'anneau était une coutume païenne et vaine, qui n'avait jamais été pratiquée parmi le peuple de Dieu, ni chez les Juifs ni chez les premiers chrétiens. Les mots de la formule habituelle, comme « je t'honore de mon corps », etc., sont à peine défendables. En bref, leur méthode est plus soigneuse, exacte et régulière que toute autre forme actuellement en usage, et elle est exempte des inconvénients des autres méthodes. Leurs précautions et contrôles sont si nombreux qu'aucun mariage clandestin ne peut être célébré parmi eux. Il n'y a aucun mariage consigné dans la Bible où un prêtre ou un magistrat officie. La secte romaine l'a institué à des fins de contrôle de la population et surtout, encore une fois, d'argent suivait l'argent. Dernier sacrement, rite, rituel ou cérémonie, les derniers sacrements, censés absoudre de tout péché juste avant la mort, et toutes les salvations instantanées, s'appuient sur le larron sur la croix, à côté de Jésus alors qu'il était crucifié, se réconfortant de cette parole de Jésus « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Bien sûr, les circonstances du larron étaient exceptionnelles. Considérez ceci. 1. Il regardait un autre criminel condamné, Jésus, être crucifié à côté de lui. 2. Cet homme, Jésus qui prétendait à une relation particulière avec Dieu, n'a rien fait pour empêcher sa crucifixion. 3. Le criminel lui-même était dans une agonie inimaginable à cause de la douleur de sa propre crucifixion. Et pourtant sa foi était encore assez forte pour reprendre un autre criminel, lui aussi crucifié, qui lançait des insultes à Jésus, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre criminel le reprit, disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Je soutiendrai que la foi de cet homme était si forte, encore active au milieu d'une douleur atroce, encore active en voyant l'homme qui prétendait être le Fils de Dieu horriblement exécuté, qu'une telle foi, dépassant ce que je peux prétendre être capable de montrer de façon comparable, a pu être récompensée parce qu'elle était extraordinaire et exceptionnelle. Le Seigneur peut faire toutes les exceptions qu'il veut. Une partie du jugement consiste à apprendre la vérité. Une partie de l'apprentissage de la vérité consiste à voir le paradis. Comme tous ceux qui ne sont pas purifiés dans cette vie, après le jugement au paradis, le larron aurait probablement dû quitter le paradis pour un temps en enfer, avant de pouvoir revenir au paradis pour vivre dans le parvis extérieur, sans mesure, le parvis de ceux dont le cœur n'est pas circoncis, des païens spirituels. Voir Isdéop for all pour les détails. Les Écritures suivantes montrent aussi comment les hommes seront jugés au paradis puis bannis ou rassemblés au dehors, mais quand le roi entra pour voir les convives, note au festin de noces, au paradis il vit là un homme qui n'avait pas un habit de noces. Il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et l'homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Lie-lui les pieds et les mains, emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Matthieu 22:11-13. Note, l'habit de noces est une robe lavée et blanchie dans le sang de l'agneau, Apoc 7:14. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, 1 Jean 1:7. Le convive n'avait pas été nettoyé ni purifié, et n'était donc pas apte à être au ciel ou au paradis. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, le péché, l'illégalité ou la méchanceté. » Matthieu 7:21-23 Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent le péché ou l'illégalité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13:41-43 note, non pas arraché hors de la terre, mais arraché hors du royaume qui est le paradis. Prétendre que l'exemple surhumain de ce criminel serait la base permettant d'entrer dans le royaume de Dieu, d'échapper à l'enfer, parce qu'on croit en Jésus, ne tient pas compte de l'ampleur de la foi du criminel, que presque tous auraient peine à reproduire, ni du fait qu'une fois jugé au paradis, il fut banni pour un temps. Comme il m'a été dit par la parole du Seigneur au-dedans, « Si tu avais été avec moi la nuit où j'ai été arrêté, tu n'aurais pas cru que j'étais le Saint d'Israël. » Soutient que le larron n'était pas purifié, n'était pas circoncis de cœur, n'était pas sans souillure, et par conséquent, bien qu'il ait vu Jésus dans le parvis extérieur du paradis destiné aux incirconcis spirituels, comme tous ceux qui meurent le voient pareillement, il fut ensuite envoyé prendre sa part dans l'étang de feu afin de le rendre apte à vivre au ciel, à y demeurer et à interagir avec tous ceux qui sont libres de l'avidité, du mensonge, du vol, de l'envie, de l'impudicité, de la colère, de l'orgueil, de la convoitise. Après sa part dans l'étang de feu, il reviendrait vivre au paradis, mais ce serait le parvis extérieur, non le parvis intérieur du temple, où ceux qui ont été purifiés sur la terre sont des pierres vivantes dans le temple de Dieu, contemplant la gloire et la puissance de Dieu pour toujours comme rois et prêtres. Et il n'entrera en aucune manière dans le ciel rien de souillé, ni personne qui se livre à des abominations ou aux mensonges, Apoc 21:8-27 et il y aura là une route, un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Les impurs n'y passeront point, mais il sera pour les racheter. Ésaïe 35:8 Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, ô Sion, revêt tes plus beaux habits, ô Jérusalem, ville sainte, car désormais les incirconcis et les impurs ne viendront plus chez toi. Ésaïe 52:1 Conclusion La plupart des sacrements inventés et supposés sont des inventions humaines d'un salut facile, ritualisé, accompli par soi-même, qu'on pourrait difficilement décrire comme la porte étroite à laquelle nous devons nous efforcer d'entrer, et que peu trouveront, car beaucoup embrasent la voie large et facile qui mène à la destruction, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Matthieu 7:13-14, Luc 13:23-24 S'efforcer, c'est déployer beaucoup d'efforts ou d'énergie, peu soutiendrait que se mouiller d'eau, ou manger du pain et boire du vin ou du jus de raisin, c'est peiner avec beaucoup d'efforts ou d'énergie. Cela forme plutôt un salut fantasmatique sans effort, seulement rituel, j'inclurais le fait de dire la « prière du pécheur », comme une autre invention de certains évangélistes autoproclamés, désireux d'être crédités de leur prétendu sauvetage d'une autre âme. Toutes ces pratiques ne sont que des traditions superstitieuses, des cérémonies et des rituels païens d'une fausse église, la même fausse église décrite dans le livre de l'Apocalypse. Pour voir jusqu'où cette fausse église est allée afin de maximiser ses revenus aux dépens de la vérité, regardez les origines de Noël et de Pâques. Croyez-le ou non, le 25 décembre était l'anniversaire du dieu romain du soleil invaincu, au solstice d'hiver. L'échange de cadeaux avait lieu la semaine précédente pour célébrer la consécration du temple à Saturne, un autre dieu romain. Ainsi, la secte romaine appela plutôt ce même jour-là « Messe du Christ »,« Christmas », en célébrant d'une manière très semblable, puis en y incluant plus tard l'échange de cadeaux, ce qui attira bien davantage de païens dans leur prétendue « Église ». On reconnaît généralement que Christ est né en avril ou en septembre, à l'époque où les bergers veillaient la nuit sur leurs troupeaux pour protéger les agneaux nouveau-nés. De plus, le Seigneur n'aime pas les festins, l'ivrognerie, les fêtes, l'échange de cadeaux et l'apparat païen arbre, gui ou bougie, calendrier de l'ave de Noël. Peut-être le pire, à Noël, est-ce que nous apprenons à nos jeunes enfants la convoitise, en les encourageant à faire des listes de souhaits et en leur demandant sans cesse « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» et ensuite ils restent convoiteux le reste de leur vie. Pourtant, la convoitise ne devait pas être vue, ni même nommée, parmi de vrais chrétiens, mais la fornication et toute impureté ou la cupidité, qu'on n'en parle même pas parmi vous, comme il convient à des saints, F5.13. Ist et l'allemand, Ostern, dérivent du nom d'une supposée déesse anglo-saxonne de l'aurore, donc du printemps, comme l'aurore de l'année, appelée Ist, Ist et Ostre selon divers dialectes du vieil anglais, et Ostara en allemand. On honorait cette déesse en célébrant l'équinoxe de printemps en avril, particulièrement important pour les Wiccans pratiquant de la sorcellerie. Ostre est aussi adorée par certains néopaïens, qui l'associent à divers aspects liés au renouveau de la vie, les œufs offrandes courantes pour la fertilité, le printemps, la fertilité et les lapins, prétendument en raison de leur reproduction rapide et prolifique. La secte romaine convertit encore une fête païenne pour la rendre chrétienne, attirant ainsi davantage d'auditeurs payants. Au minimum, la date de Pâques coïncide parfois avec la Pâque. Oui, toutes les sectes déficitaires d'Ojudieu composent la prostituée de Babylone de l'Apocalypse, dont toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication, car toutes les sectes ne sont que des variétés évolutives de l'Église de l'Empire romain, allées comme à l'Ouest, dont les doctrines furent dictées par les empereurs canonisés Constantin et Justinien le Despote. Ainsi, la botte écrasante de l'Empire romain élimina le véritable Évangile d'ici 388 âpres. J.C., comme prophétisé dans l'Apocalypse, l'Église a commis l'adultère avec les rois de la terre. Il la bête lui fut encore permis de faire la guerre aux saints de Dieu, les saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir d'étendre son autorité sur les tribus, les langues et les nations. La bête du livre de l'Apocalypse est la bête de l'autorité religieuse païenne, dont le pouvoir fut sévèrement limité une blessure à la tête par le christianisme primitif, particulièrement dans la région méditerranéenne. Mais une seconde bête surgit bientôt, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais c'était une bête. Notez que cette bête semble d'apparence chrétienne et sous prétexte de l'autorité de l'agneau, bien qu'agissant par la puissance du dragon, provenant de la première bête de la religion païenne, contraint les hommes à se conformer à des traditions, des cérémonies et des rituels, en guise de devoirs chrétiens, qui ressemblent aux coutumes des païens dans leur culte idolâtre et leurs superstitions. La terre entière a suivi cette bête et le fait encore. Ainsi naquit la fausse église, et quiconque niait cette fausse église, ou ne confessait pas ses péchés à un prêtre catholique trois fois par an, ou ne recevait pas le pain et le vin de l'Eucharistie trois fois par an, était martyrisé par l'Inquisition. Tous les foyers suspects et des propriétés entières étaient minutieusement fouillés, dans les villes et hors des villes, par un prêtre, afin de trouver de tels hérétiques qui ne se conformaient pas aux sacrements catholiques. Ainsi, si des gens ne cherchaient pas Dieu et Christ en se conformant à la méthode de culte de la secte catholique, ils étaient exterminés comme de la vermine. En se conformant au culte de la secte catholique, ils recevaient sa marque. Quiconque tentait d'augmenter sa mesure de Christ, d'acheter ou de vendre de l'huile spirituelle pour ses lampes par une voie différente de celle des masses de l'Église catholique, n'avait pas la marque de la fausse Église. Non seulement on l'en empêchait, mais on le torturait brutalement à l'Inquisition, puis on le tuait, ce qui, de fait, le rendait incapable d'acheter ou de vendre. Acheter ou vendre sont des métaphores, qui signifient acquérir davantage du Saint-Esprit, ce que plusieurs autres écritures montrent aussi au moyen de métaphores différentes où pain, vin, or, huile pour le Saint-Esprit, achète la vérité, et ne la vend pas, achète aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Prov 23:23 Venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, et celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, Oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et le fruit de votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et obéissez, et votre âme vivra. Ésaïe 55:1-3. Quel pain? Jésus a dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35. L'esprit donne la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles donnent la vie. Jean 6:63. Je te conseille d'acheter de moi de l'or affiné et éprouvé au feu, afin que tu sois riche. Apoc 3:18. L'or affiné et éprouvé au feu, c'est la foi qui a été testée et éprouvée par le feu, épreuve, souffrance et tribulation, tout cela faisant partie de la croix que chaque croyant doit endurer pour entrer dans le royaume. Pour plus de détails sur la marque de la bête, voir la note de bas de page Apocalypse 13:16-17 dans la Bible en ligne de ce site web. Durant le Moyen Âge, 800 âpres, J.C., à 1500 âpres, J.C., 9 millions d'âmes ont été mises à mort par les catholiques romains. Voir les persécutions du Moyen Âge pour savoir comment 9 millions de personnes ont été tuées à travers l'Europe. De la parole du Seigneur au-dedans, on pouvait voir que tout homme qui n'était pas en conformité ou en accord avec l'Église catholique était tué. Et tandis que cette fausse Église est souvent identifiée par les protestants comme l'Église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée, sa bête a de nombreux noms, et des sectes déficitaires pratiquant les inventions humaines des catholiques. Baptême des nourrissons, la Trinité nulle part mentionnée dans les Écritures, mariage par des prêtres, bâtiment vain et orgueilleux appelé saint, clocher avec cloche, robe noire, chemise noire, collet spéciaux credo, lecture de sermons, sacrement, vicaire, clerc, pasteur, vicaire, bâche. Les cultes protestants ont leurs racines dans la messe catholique, qui est contraire à toutes les directives du Nouveau Testament et d'origine médiévale. Ils reflètent des rituels magiques et païens et le théâtre grec, séparant le corps du Christ en deux classes, l'ordre du clergé privilégié et mis en avant, contre l'auditoire ou les laïcs qui ne faisaient que regarder et écouter le spectacle dramatique appelé culte. Sous la direction de l'empereur Constantin, qui avait empoisonné son fils et fait bouillir sa femme à mort, la secte catholique fut incorporée au gouvernement romain, qui en prescrivit la doctrine, bâtit ses églises dans tout l'Empire, paya le clergé, vêtit le clergé de manière identique aux fonctionnaires du gouvernement romain, abolit la Pâque pour en faire Pâques, et désigna Noël pour coïncider avec les fêtes païennes romaines. On appliqua des noms chrétiens à divers rituels et traditions païens, leur donnant de la crédibilité aux yeux des gens sans méfiance. Tous les croyants chrétiens d'Icides furent soit bannis en exil, soit tués. De nombreuses persécutions catholiques romaines ont été justifiées par la célèbre formule de saint Augustin. Pourquoi l'Église ne devrait-elle pas user de force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus ont contraint d'autres à leur destruction? Un exemple classique de la fin justifie les moyens, qui perd de vue le commandement principal du Christ, aimer ses ennemis, non les détruire, un autre prétendu saint. Thomas d'Aquin écrivit, pour ce qui est de l'Église cependant, il y a une miséricorde qui vit à la conversion de l'égaré, c'est pourquoi elle ne le condamne pas aussitôt, mais après un premier et un second avertissement, comme l'apôtre l'ordonne, après quoi s'il demeure obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion regarde au salut des autres, en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et en outre le livre au tribunal séculier afin qu'il soit exterminé du monde par la mort. Ces saints vénérés ignorent la réponse du Christ à ses disciples lorsqu'il voulait punir les gens qui ne voulaient pas l'écouter, les reprenant sévèrement par ces mots. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il est censé être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par l'ensemble du corps des croyants, et s'il ne se rebe pas de son erreur, il est censé être expulsé et évité, pas tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. La Réforme a enfanté les protestants, et eux aussi aimaient le meurtre, suivant les traces de leur mère, la secte romaine. Jean Calvin, l'un des principaux fondateurs du protestantisme, encore vénéré par de nombreuses sectes protestantes, força les citoyens de Genève à assister aux offices, sous une lourde menace de peine de mort ou d'expulsion. Parce que Michel Servet n'était pas d'accord avec les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin accusa et fit arrêter Servet pour hérésie, entre autres divergences, Servet niait le baptême des nourrissons et la Trinité, ce qui aboutit à ce que Servet fut lentement brûlé vif sur le bûcher avec du bois vert. Jacques Gruet, adversaire connu de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26/07/1547 pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit aussi brûler sur le bûcher 34 femmes comme sorcières, accusées d'être responsables d'une peste. On attribue à sa théocratie à Genève 76 personnes exilées et un total de 58 condamnations à mort après torture pour obtenir leur aveu. Calvin justifia la torture et l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et coupable comme eux. Il n'est pas question ici de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observée dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer qu'on ne lui rend pas l'honneur qui lui est dû, de sorte que nous n'épargnions ni parenté ni sang de quiconque, et oublions toute humanité quand il s'agit de combattre pour sa gloire. Jésus a dit, « Quiconque vous tuera pensera rendre un service à Dieu. » Jean 16, 2. Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Luther, rempli de haine envers les Juifs. D'après l'article Wikipédia sur Martin Luther, et d'après l'article Wikipédia sur la Kristallnacht, la nuit de cristal, Luther prôna d'abord la bonté envers les Juifs, mais uniquement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait la Judenmission. Lorsque ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé à leur égard. Ses principaux ouvrages sur les Juifs furent son traité de 60 000 mots von den Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, et vom Schem Amphoras und vom Geschlecht Christi, du nom sacré et de la lignée du Christ, réimprimé 5 fois de son vivant, tous deux écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil et prostitué, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur vantardise de lignée, de circoncision et de loi doit être comptée comme de la souillure. La synagogue était « une épouse souillée, oui, une prostituée incorrigible et une mauvaise traînée, et les Juifs étaient pleins des excréments du diable dans lesquels ils se vautrent comme des porcs. » Il préconisait de mettre le feu aux synagogues, de détruire les livres de prière juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de saccager leurs maisons, et de faire en sorte que ces vers venimeux empoisonnés soient forcés au travail ou expulsés pour toujours. Il semblait aussi cautionner leur meurtre, écrivant « Nous avons tort de ne pas les tuer ». La persécution nazie des Juifs en Allemagne a commencé à grande échelle lors de la Kristallnacht, la nuit de cristal, au cours de laquelle 200 synagogues furent incendiées, des livres, des rouleaux et des antiquités juives furent brûlés, 7 500 devantures d'entreprises juives furent saccagées, d'où le nom de vers brisés, des pierres tombales et des tombes furent arrachées, 30 000 Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire d'ampleur comparable eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements se produisirent les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Luther était le 10 novembre. Le conseil de Luther fut appliqué à la lettre lors de la Kristallnacht. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Luther acquit en Allemagne le statut d'écriture, et il devint l'auteur le plus lu de sa génération, en partie à cause du caractère grossier et passionné de ses écrits. Le point de vue dominant chez les historiens est que sa rhétorique anti-juive a contribué de façon significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne, et que, dans les années 1930 et 1940, elle fournit une base idéale aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les Juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les Juifs, pour quelque raison que ce soit, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Luther. » Selon Michael, à peu près chaque livre anti-juif imprimé dans le Troisième Reich contenait des références et des citations de Luther. Heinrich Himmel écrivit en 1940 avec admiration au sujet de ses écrits et sermons sur les Juifs. La ville de Nuremberg offrit en 1937 à Julius Treschow, rédacteur du journal nazi Der Stürmer, une première édition de Des Juifs et de leurs mensonges pour son anniversaire. Le journal la décrivit comme le pamphlet le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, 7 fédérations d'églises régionales protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique consistant à forcer les Juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après sa douloureuse expérience, Luther avait déjà suggéré des mesures préventives contre les Juifs et leur expulsion du territoire allemand. Toutes les sectes protestantes et catholiques qui ont tué ou même approuvé qu'ont tué, ceux qui avaient une opinion religieuse différente étaient très différentes des vrais chrétiens, en envisageant seulement le meurtre, elles suivaient et cédaient à leur père, le diable, qui est meurtrier dès le commencement. Peut-être commencez-vous à voir que, des 388 âpres, J.C., la chrétienté avait été transformée en synagogue de Satan, avec des ministres de Satan transformés pour paraître comme des ministres de justice. Augustin et Thomas sont 2 des 4 piliers du catholicisme romain. Calvin et Luther sont les principaux fondateurs du protestantisme. Si les fondateurs vénérés des sectes sont mauvais, comment les sectes qui l'ont fondée ne seraient-elles pas mauvaises, et la prostituée était ivre du sang des saints, les inquisitions et massacres de l'Église romaine à travers l'Europe, ou durant le Moyen Âge, 800 âpres, J.C., à 1500 âpres, J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Les zélotes protestants d'Allemagne, inspirés par la traduction radicale de la Bible par Luther, violèrent, pillèrent et tuèrent 100 000 catholiques et membres des classes supérieures lors de la guerre des paysans. Le roi d'Angleterre Henri VIII, le fondateur de la secte épiscopalienne, fit tuer 72 000 opposants, principalement des catholiques. L'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande subirent trois guerres civiles de puritains astérisques contre les gouvernements en place, qui laissèrent 190 000 morts en Angleterre, 3,7% de la population, 60 000 morts en Écosse, 6% de la population, et 616 000 morts en Irlande, 41% de la population, majoritairement catholique. Astérisque, justifiant leur révolution comme l'établissement du royaume du Christ sur la terre, les puritains considéraient leurs adversaires comme des ennemis du Christ. Les officiers puritains de leur armée inspiraient fréquemment leurs troupes en criant une citation de l'Ancien Testament contre l'idolâtrie païenne, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec tromperie et retient son épée loin du sang. » Les soldats puritains et parlementaires victorieux, avec leurs noms bibliques extraordinaires, Prescott Barbones et Sergent Hugh Agag in Pious Before the Lord, parcouraient le pays, brisant les images dans les églises, arrachant les tuyaux des orgues, cassant les vitraux et installant leurs chevaux dans les cathédrales. Cela fut suivi au XVIII siècle par les protestants d'Angleterre et d'Amérique, qui en 50 ans, furent responsables de la mort de plus de 869 Quakers, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes et saisissant les biens de dizaines de milliers. Parmi les persécuteurs des Quakers figuraient des épiscopaliens, des presbytériens, des congrégationalistes et des baptistes. Trois hommes et une femme furent pendus à Boston par les puritains qui croyaient à la Bible. La fausse église se vante de ne pas être veuve et de ne jamais voir le chagrin. Elles se vantent que Christ est leur mari, mais ces fausses églises sont la prostituée de Babylone, qui ignore les commandements du Christ de se repentir, ses enseignements, ses exigences, ses avertissements, la sainteté qu'il requiert, son évangile, son royaume, sa liberté promise du péché, et sa croix intérieure de renoncement à soi, la croix manquante vers la pureté. À présent, le monde entier, pensant adorer Christ, adore le diable, Apoc 13:3-4. Le christianisme d'imitation et les autres religions du monde adorent tous le diable, croyant adorer Dieu. Pourquoi et comment? Parce qu'ils adorent un être qui les dispense de la nécessité d'une vie sans péché, un être qui approuve leur mode de vie égoïste, malhonnête, convoiteux, colérique, immoral et impur, leur promettant une échappatoire à l'enfer après la mort, promesse qui sera annulée. Car le faux Jésus qu'ils adorent excuse toutes les formes de péché. Le faux Jésus qu'ils adorent va épouser une fiancée pleine d'adultère, de convoitise, de colère, de luxure, de langage profane, de mensonges, etc. Leur faux Jésus leur permet de vivre dans le péché jusqu'à leur mort, puis est censé les accueillir dans le ciel. Leur faux Jésus rend le péché plus facile, en rendant le péché soi-disant exempt de culpabilité. Leur faux Jésus embrasse le péché et le mal. Leur faux Jésus dit « Vous pouvez vivre comme bon vous semble, en prenant vous-même vos décisions selon ce que vous pensez être le bien et le mal. » Jean, c'est la description du diable qui a dit à Ève qu'il serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce faux Jésus est un Dieu qui approuve que l'homme marche selon l'imagination de son propre cœur, ce qui est pire que d'adorer des idoles de bois et de pierre, Jer 16:11-12. Ce faux Jésus approuve que l'homme soit son propre Dieu. Ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus est saint et pur. L'épouse de Jésus doit être sainte et pure aussi. Jésus a dit « Ne pêche plus, repens-toi au péril, perdre ton âme. » Et Jésus a dit « Si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et d'aller en enfer, où le feu ne s'éteint jamais. Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer. » Marc 9, 43, 45, 47, 48. Jésus essaie désespérément de nous dire que, pour entrer dans le royaume et échapper à l'enfer, le péché doit disparaître. Il savait que des faux ministres, avec de faux évangiles promettant la liberté de continuer à pécher, surgiraient après son départ. Les changements dans notre cœur, par la croix manquante vers la pureté, peuvent ôter le désir de la main, du pied et de l'œil de nous faire pécher. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir, mettez à mort les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 8, 13. Et ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24. Et vous pouvez en être sûr, aucun impudique, impur ou convoiteux n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5:6. Ainsi, toutes les 45 000 sectes de la chrétienté, qui permettent à leurs membres de continuer à pécher jusqu'à la mort, adorent le diable, qui porte une étiquette Jésus. Paul nous a avertis au sujet de Jésus différent et d'évangiles différents. 2 Corinthiens 11:4. La marque de la bête se voit aux fruits spirituels qu'un homme manifeste, des fruits de la chair au lieu des fruits de l'esprit. Ceux qui portent la marque de la bête mettent leur esprit mauvais, leur cœur souillé et leur intelligence charnelle au service du maintien de la religion de l'homme, inventée par l'homme, cherchant la justification par l'action charnelle, la cérémonie et le rituel. Ils cherchent une couverture pour demeurer dans leur nature déchue, non rachetée, non purifiée, non régénérée, imparfaite, impie, charnelle, orgueilleuse, concupiscente, charnelle, menteuse, égoïste, haineuse, oppressive, sombre, bestiale. Dans son introduction, au journal de George Fox, William Penn écrit au sujet de la bête devenue la fausse église de Babylone. Ainsi la fausse église surgit et monta sur le trône, mais bien qu'elle eût perdu sa nature, elle essaierait de garder son bon nom comme l'épouse de l'agneau, qui est la vraie église et mère des fidèles. Cette fausse église força tous à recevoir sa marque, soit sur le front, soit sur la main droite, c'est-à-dire publiquement ou en privé. Astérisque mais en acte et en vérité, elle était Mystère Babylone, la mère des prostituées, mère de ceux qui, avec tout leur étalage et leur religion extérieure, avaient adultéré et s'étaient éloignés de l'esprit, de la nature et de la vie de Christ, et étaient devenus vains, mondains, ambitieux, convoiteux et cruels, qui sont les fruits de la chair et non de l'esprit. Astérisque, la marque sur le front est symbolique d'une possession ou d'une pratique publique des fruits de la chair, facilement visible par tous. Et la marque sur la main droite est symbolique d'une possession ou d'une pratique privée des fruits de la chair ou de la nature bestiale, visible à l'examen. Toute religion, qui accepte le péché chez l'homme comme inévitable jusqu'à la mort, est une religion de la bête et de Satan. La marque de la bête consistait à être membre de la secte catholique romaine, ceux qui n'étaient pas en règle étaient tués. On ne leur permettait pas d'adorer, ni de chercher Dieu, acheter et vendre d'une autre manière que par les messes catholiques, avec la consommation de pain et de vin. Toutes les spéculations dans la chrétienté à propos d'une incapacité littérale d'acheter ou de vendre ne sont qu'une distraction par rapport à la vérité, qui est l'horreur d'être incapable d'acheter ou de vendre appartient à l'histoire. Toutefois, ceux qui sont encore dans les sectes catholiques et protestantes servent actuellement la bête et sont donc marqués spirituellement. Toutes les religions du monde servent la bête, niant les conséquences de continuer à pécher et niant la nature déchue de l'homme, lequel doit être restauré à la pureté de la justice et de la sainteté avant d'être acceptable à Dieu et au ciel après la mort. Même les athées servent la bête parce qu'ils se font eux-mêmes Dieu, niant le péché, servant leur convoitise, leur passion et leur orgueil. Tous les hommes servent la bête lorsqu'ils marchent dans les ténèbres, selon leur intelligence charnelle et leur imagination mauvaise, au lieu de marcher dans l'esprit et la lumière, guidant toutes leurs pensées, paroles et actions. Si vous voulez lire davantage sur la manière dont les sectes d'aujourd'hui sont la prostituée et la bête de Babylone, voir les notes de bas de page Apocalypse 13 et Revelati 0:17. Isaac Pennington donne aussi des explications très approfondies sur ce site. 1. Babylone la Grande et 2. La Grande Apostasie. On y trouve également l'exposé de Francis Haugel sur la détérioration du christianisme. Au lieu d'un cœur nouveau, tout ce que vous avez à faire, soi-disant, c'est de répéter quelques mots spéciaux. Mais dire que Jésus est Seigneur ne fait pas de lui votre Seigneur, et cela ne nous sauve pas. Être baptisé ne nous sauve pas. Un simple attouchement de l'Esprit, l'appel de Dieu seulement, vanté comme le baptême du Saint-Esprit, ne nous sauve pas non plus. Ils ne garantissent pas que nous vivrons pour toujours ni ne font de nous un fils de Dieu. Pas de sauver parce qu'on a cru être baptisé, pas de sauver une fois, sauver pour toujours. Le salut n'est pas instantané, le salut est un processus. Pour renaître, nous devons d'abord mourir, vous devez perdre votre vie pour la sauver. Le véritable baptême du feu du Saint-Esprit, le seul nécessaire, circoncit le cœur en engloutissant le péché et l'iniquité, et dépouille le corps de mort et les péchés de la chair afin que nous soyons sans péché, un baptême dans la mort du Christ, qui aboutit à ce qu'il soit ressuscité en nous pour régner sur nos paroles et nos actions. Jésus a dit qu'il rejetterait beaucoup de gens qui pensaient être chrétiens, mais qui continuaient à pécher. Il ne l'avait pas fait Seigneur dans la pratique, lui qui contrôle leur vie dans leurs actions et leurs paroles, il ne les connaît pas comme ses sujets, lui leur Seigneur régnant. Ils disent Jésus est Seigneur des lèvres, mais le maintiennent loin de leur cœur pour qu'il soit réellement leur Seigneur et Roi. Mais c'est en vain qu'il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15:9. Pour le faire Seigneur, il doit d'abord nous purifier de notre nature pécheresse indisciplinée, Tant qu'il ne nous purifie pas, nous sommes esclaves du péché. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, et incapables de lui être soumis comme à votre Seigneur ou Roi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Luc 9, 23. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.